On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Des jeunes en expédition contre la pollution. Un texte d'Ophélie Delaunay paru le 14 août 2025 dans les as de l'info. Depuis le 6 août, 18 passionnés d'environnement parcourent les routes du Québec à bord du gros autobus bleu de l'Expédition Saint-Laurent. Ils sont partis de Montréal et aujourd'hui, ils se trouvent près de Tadoussac, à 500 km de là. Pourquoi ce long voyage? Pour ramasser un maximum de déchets le long du Saint-Laurent et des cours d'eau alentour. Anaïs et Tristan m'ont raconté comment se passe cette expédition. Prends ton seau et mets tes gants, on part à la chasse aux déchets avec eux. Pourquoi as-tu décidé de participer à l'expédition? Anaïs, j'étudie les sciences de la nature au cégep. Dans mon programme, il y a plusieurs activités scientifiques. J'ai choisi l'expédition Saint-Laurent parce que protéger la nature, c'est vraiment important pour moi. L'idée de voyager à travers le Québec pour nettoyer les cours d'eau me motivait aussi beaucoup. Alors, j'ai envoyé ma candidature et j'ai été choisi. Tristan, j'ai toujours aimé les sciences. Plus jeune, je voulais être paléontologue, puis astronaute. Mais j'ai fini par comprendre que ce que j'aimais le plus, c'était l'environnement. Maintenant, j'étudie dans ce domaine à l'université. Je cherche aussi des façons de protéger la nature. Une amie qui avait participé à l'expédition l'année dernière m'en a parlé, alors j'ai tenté ma chance. Comment se déroule une journée, ce n'est pas trop fatigant? Anaïs, chaque soir, on dort dans un hôtel. Le matin, après le déjeuner, on se rend à l'endroit qu'on va nettoyer. On sort tout notre matériel, on se met au travail et on ramasse tous les déchets qu'on trouve pendant environ 2 heures. Tristan, ce n'est pas vraiment fatigant et on est très motivé. Après chaque nettoyage, on passe un moment tous ensemble en écoutant de la musique. L'ambiance de l'équipe est vraiment super. Après, on remonte dans l'autobus pour aller à notre prochaine destination. Ce sont vraiment des journées incroyables. On découvre plein de beaux endroits du Québec. As-tu trouvé des déchets surprenants? Tristan, on a déjà trouvé une poussette ensevelie dans la boue. Pour aider les plongeurs à la sortir de là, j'ai dû aller à l'eau tout habillé, mais ça valait la peine car on a réussi. Anaïs, le premier jour, on a sorti de l'eau une énorme plateforme de bois. C'était vraiment compliqué. On s'est mis à au moins 20 personnes pour tirer sur des cordes, comme dans un jeu de tir à la corde. À la fin, on était très fiers. Vive le travail d'équipe! Vous faites quoi avec tous ces déchets? Tristan. Après avoir ramassé les déchets, on les trie en différentes catégories. Ça aide les scientifiques à comprendre d'où les déchets proviennent et à imaginer des solutions pour qu'il y en ait moins. Ensuite, on envoie le tout vers des centres de tri ou au dépotoir. On ramasse aussi un peu de terre sur la rive et au fond de l'eau, puis on envoie ces échantillons à des laboratoires où des scientifiques analysent de quoi le sol est composé et combien de microplastiques on y trouve. Est-ce que tout le monde peut participer à l'expédition Saint-Laurent? Anaïs? Oui. N'importe qui peut se joindre à nous. Des enfants d'un camp de jour ont participé et une petite fille était tellement motivée qu'elle a préféré continuer à ramasser des déchets avec nous plutôt que de retourner se baigner. J'espère qu'elle va en parler à ses parents pour leur donner envie de le faire, eux aussi. Tristan. Il y a des familles avec des enfants, des grands-parents. Chacun va à son rythme et nous aide le temps qu'il le souhaite. Que faut-il faire pour participer? Anaïs, va sur le site web Expédition Saint-Laurent et ses bassins versants pour trouver un lieu de nettoyage et rends-toi là-bas avec ta famille. Tu n'as pas besoin de t'inscrire, mais tu dois être bien équipé. Tristan. Et pas besoin d'une grosse expédition pour sortir ramasser les déchets. Il suffit de se rendre dans n'importe quel parc à côté de chez toi. Bien trier les déchets et éviter les emballages, ça aussi c'est important. Ce sont des petites actions qui font une grosse différence. Et il n'y a pas d'âge pour commencer. Anaïs, on ramasse entre 600 et 900 kilos de déchets par jour. À la fin de l'expédition, on aura sûrement ramassé plus de 10 tonnes de déchets. C'est le poids de 5 voitures. Pour participer à une activité de nettoyage, prévois des gants de jardinage pour ne pas te blesser, un seau, une paire de pinces, un chapeau, de la crème solaire, une bouteille d'eau, des collations, des pantalons et un chandail long. As-tu déjà trouvé des déchets près d'un cours d'eau? C'était quoi? Onzième arrêt, le Yukon. Un texte de Lisbeth Cerné, paru le 17 août 2025 dans les As de l'Info. Lisbeth Cerné est journaliste. Elle s'est lancée dans un grand voyage en solo à travers le Canada. Sur sa route, elle rencontre des jeunes de ton âge et elle va visiter leur lieu coup de cœur. Suis-la tous les dimanches dans sa quête. Après l'Ouest canadien, je me suis rendu plus au nord, dans le territoire du Yukon. J'ai visité l'école Émilie Tremblay, qui est située à Whitehorse, la capitale du Yukon. Là, je rencontre Charlie Bernier. Elle est âgée de 10 ans et est en 5e année. Durant la visite, elle me présente la bibliothèque, la salle d'éducation physique ainsi que la salle sensorielle qui permet aux élèves d'avoir un espace pour relaxer. Dans un couloir, elle me pointe quelque chose. « Ça, c'est les bottes pour les skis de fond », me dit-elle. Eh oui, à l'école Émilie Tremblay, dès la maternelle, tous les élèves pratiquent le ski de fond en hiver. L'école a donc des bottes et des skis de toutes les tailles. Plus loin, elle me fait visiter la salle aquarium. On l'appelle comme cela parce qu'il y a des vitres. Quand on regarde dedans, c'est tout bleu. Il y a plein de matériel. C'est ici qu'on fait l'option menuiserie. La menuiserie ne fait pas partie des choix d'activité de Charlie. Comme option, elle a préféré le théâtre, la musique et le sport. On passe ensuite à la salle soleil. Il y a une grande fenêtre ici et ça montre tout le temps le soleil. C'est dans ce local d'un jaune vif que se tiennent les réunions du comité culturel jeunesse. On organise les grands événements de l'école comme la kermesse ou la fin de l'année, me dit Charlie. La directrice, Marie-Hélène Gagné, m'explique que l'école Émilie Tremblay est la première école 100% francophone du Yukon. La directrice précise que d'année en année, le nombre d'élèves ne cesse de croître. Le lendemain de mon passage, c'était le 40e anniversaire de l'école. L'endroit préféré de Charlie. Charlie affectionne particulièrement la bibliothèque publique de Whitehorse, qui a un vaste choix de livres jeunesse. Le savais-tu? Il y a eu une ruée vers l'or au Yukon. C'est l'intérêt pour ce précieux métal qui a contribué à la naissance de ce territoire à la fin du 19e siècle. As-tu déjà entendu l'expression « c'est pas le Klondike » Les cow-boys fringants l'utilisent dans la chanson « L'Amérique pleure ». Le Klondike, c'est un fleuve qui était l'objectif des chercheurs d'or. L'atteindre était extrêmement difficile, mais ils espéraient y faire fortune. Aujourd'hui, des machines aident à extraire les métaux, mais pour les familles qui veulent tenter l'aventure, il est possible d'emprunter du matériel d'orpaillage et de partir à la recherche de pépites d'or dans les endroits autorisés. La semaine prochaine, Lisberte nous fait visiter les territoires du Nord-Ouest. Douze choses à savoir sur le 12e album de Taylor Swift. Un texte de Marie Bernier, paru le 15 août 2025 dans les As de l'Info. Joie chez les Swifties. Le 12 août, à minuit 12, la chanteuse Taylor Swift a annoncé le lancement de son 12e album. Comme tu peux le voir, l'artiste s'est amusé avec les chiffres. On s'est pris au jeu. On te présente donc 12 choses à savoir sur son 12e album. 1. Le titre de l'album est « The Life of a Showgirl ». Ça peut se traduire par « La vie d'une performeuse ». 2. L'album sera lancé le 3 octobre 2025 et non pas le 12. 3. La pochette a été dévoilée. On voit la chanteuse dans un bain portant un maillot en paillettes. 4. Taylor Swift a écrit l'album alors qu'elle était en pleine tournée. Elle a expliqué qu'entre deux séries de spectacles de The Eras Tour en Europe, elle prenait l'avion pour s'éloigner et composer ses chansons. 5. L'album comprend 12 chansons, évidemment. La liste complète des titres a été dévoilée. 6. La tournée a beaucoup inspiré la chanteuse. Elle a expliqué que les chansons évoquent ce qui se passait en coulisses des spectacles derrière le rideau. 7. L'une des chansons porte le nom d'Elizabeth Taylor. Il s'agit d'une actrice hollywoodienne légendaire qui a déjà joué Cléopâtre au cinéma. 8. Chaque album de Taylor Swift est associé à une couleur. Pour « The Life of a Showgirl », l'orange est en vedette. 9. Une autre chanteuse pop très populaire, Sabrina Carpenter, chante sur « The Life of a Showgirl ». 10. C'est un album qui devrait faire danser. Taylor Swift a décrit sa tournée comme une période complètement folle et vibrante de sa vie. Elle a voulu que cette excitation soit transmise dans sa musique. On est donc très loin de la douceur et de la mélancolie de son album « Folklore ». 11. La chanteuse a dévoilé son album dans un épisode du balado « New Hate » qui est animé par son amoureux, le joueur de football Travis Kelce, et son frère Jason Kelce. L'entrevue dure près de 2 heures et a comptabilisé plus de 10 millions d'écoutes, un record pour le balado des frères Kelce. 12. L'annonce a fait le tour du monde. À Times Square, à New York, l'image de l'album a recouvert plusieurs écrans géants. Comment penses-tu que cet album va sonner? Les As du sport, c'est le retour du football. Un texte de Frédéric Sauvé, paru le 13 août 2025 dans les As de l'Info. Si tu aimes le football américain, c'est bientôt le moment tant attendu. Les matchs préparatoires de la NFL ont commencé et certains joueurs font déjà parler d'eux. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe dans le monde du sport. Baseball, soccer, tennis, enfile tes running shoes, je te donne les dernières nouvelles. Des recrues qui se démarquent. C'est le début des matchs préparatoires dans la Ligue nationale de football. Bien que la saison commence seulement dans un mois, on peut déjà voir les recrues à l'œuvre sur les terrains. Parmi les nouveaux, le quart arrière des Browns de Cleveland, Shedeur Sanders, s'est déjà démarqué. Je t'avais parlé de ce joueur de 23 ans dans un As du sport. juste après le repêchage. C'est maintenant clair, le jeune prodige est plus motivé que jamais à faire ses preuves. En 3 périodes de jeu, il a lancé 2 touchés pour 138 verges par la passe. Sanders espère faire sa place dans cette équipe, qui compte 5 quarts arrière. Jen Powell écrit l'histoire. Le 9 août, Jen Powell est devenue la première femme à arbitrer un match régulier de baseball majeur. Elle arbitrait lors du match entre les Braves d'Atlanta et les Marlins de Miami. Ce jour-là, elle a reçu un accueil chaleureux de la foule lorsqu'elle est apparue sur l'écran géant du stade. À 48 ans, elle arbitre dans la Ligue nationale de baseball, MLB, depuis 2016, mais elle avait uniquement travaillé lors de matchs préparatoires. Hassoun Kamara au mur de la renommée. L'ancien joueur du CF Montréal est la nouvelle vedette du mur de la renommée. Il devient le 7e joueur à recevoir cet honneur après Gabriel Gervais, Nevio Pizzolito, Greg Sutton, Mauro Biello, Patrice Bernier et Ignacio Piatti. Kamara a porté les couleurs de Montréal de 2011 à 2017. Le défenseur a joué plus de 150 matchs en saison régulière et a contribué à plusieurs succès, dont 2 championnats canadiens, une finale de Ligue des champions de la CONCACAF et une finale de conférence en MLS. Les gagnants de l'Omnium Banque nationale. C'était évidemment la nouvelle sportive de la dernière semaine. À 18 ans, Victoria Mboko est devenue la première Canadienne à remporter l'Omnium Banque nationale à Montréal. Au même moment, à Toronto, la finale des hommes avait lieu. Ben Shelton affrontait Karen Khachanov. Mais quand la victoire de Mboko a été confirmée, la foule à Toronto s'est mise à célébrer. Sauf que, sur le terrain, Shelton et Khachanov n'avaient aucune idée pourquoi. Ils avaient l'air un peu perdus. Finalement, c'est Ben Shelton qui a eu le dessus sur Karen Khachanov en 3 manches. Et toi, quels sports ou événements sportifs ont marqué ton été? L'histoire touchante derrière Ballon Sonde, la chanson de l'été. Un texte de Michael Clément, paru le 16 août 2025 dans les As de l'Info. Un peu comme on lance un ballon sonde, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Tu as peut-être entendu ces paroles de la chanson Ballon Sonde à la radio. Elle est numéro 1. Je te parle de cette chanson de J.F. Posé qui s'adresse à son grand ami, le chanteur décédé des Cowboys fringants, Carl Tremblay. J.F. Posé, membre des Cowboys fringants, écrit les chansons du groupe depuis 30 ans. Mais c'est son ami et collègue Carl Tremblay qui les chantait. Comme tu le sais sans doute, Carl Tremblay est décédé il y a bientôt 2 ans. Sa mort avait ébranlé tout le Québec et les membres des Cowboys fringants, évidemment. Cet été, J.F. Posé a lancé une chanson en solo. Ballon sonde. Pour la première fois, c'est sa voix à lui qui chante toutes les paroles. Dans cette chanson émouvante, le guitariste et parolier s'adresse à Carl Tremblay et lui dit « Tout est plus triste depuis que tu es parti, mon ami. » Coup de cœur du public. Ballon sonde semble avoir touché une corde sensible car elle a tout de suite connu un énorme succès. Elle s'est classée numéro 1 au top radio francophone de la disque. Ça veut dire que c'est la chanson la plus jouée à la radio en français au Québec depuis la semaine du 8 juillet. C'est quoi la disque? La disque, c'est l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo. Ce groupe aide les artistes de la musique du Québec. Il organise des spectacles, remet des trophées et défend les chanteurs, les musiciens et toutes les personnes qui travaillent dans la musique. Son but? Faire briller la musique d'ici et aider ceux qui la créent à vivre de leur passion. Un album à venir. Ballon Sonde est en fait le premier extrait du premier album solo de J.F. Posé. Cet album sortira le 3 octobre et s'appellera « Les amours de seconde main ». Sa maison de disques, La Tribu, nous a confirmé que son album contiendra 10 autres chansons originales. Les fans des Cowboys fringants devraient aimer puisqu'il a été enregistré avec la même équipe que pour les albums du groupe. En décembre, JF partira en tournée à travers le Québec. Sur scène, il jouera les chansons de son nouvel album, mais aussi plusieurs morceaux qu'il a composés pour les Cowboys fringants. Les Cowboys fringants sont l'un des groupes les plus aimés au Québec. Leurs chansons ont marqué plusieurs générations en parlant d'amour, de nature, d'engagement et de fierté québécoise. La mort en 2023 de Carl Tremblay a laissé un grand vide. Avec Ballon Sonde, J.F. Posé ne fait pas que rendre hommage à son ami. Il continue aussi de faire vivre l'esprit des Cowboys fringants. Pourquoi penses-tu que Ballon Sonde touche autant les gens qui l'écoutent?
Un peu comme on lance un ballon sonde, je t'envoie des nouvelles de l'autre monde. Rien ne fit si tout va pour le mal, ça frôle la guerre mondiale. La planète est à Dieu.
Faire du Québec un pays? Un texte de Camélia Boussède, paru le 19 août 2025 dans les As de l'Info. Savais-tu que plusieurs Québécois rêvent depuis longtemps que le Québec soit un pays? On les appelle des indépendantistes ou des souverainistes. L'idée avait perdu en popularité dans les années 2000 et, surprise, depuis les derniers mois, ça revient en force chez les jeunes. Je t'explique tout. Dans les dernières semaines, deux sondages ont confirmé la même chose. La moitié des jeunes Québécois entre 18 et 34 ans appuieraient l'idée de faire du Québec un pays. Pourquoi veulent-ils se séparer du Canada? Beaucoup de Québécois ne se sentent pas Canadiens et pensent que le Québec est trop différent du reste du Canada. En fait, le Québec a été fondé par les Français il y a très longtemps. C'était la colonie de la Nouvelle-France. Mais en 1763, après que les Français aient perdu une guerre, ce territoire a été conquis par les Britanniques. À cette époque, les Britanniques voulaient assimiler les habitants de la Nouvelle-France, c'est-à-dire exiger qu'ils abandonnent leur langue et leur culture. C'est de là qu'est venue l'envie des Québécois de se battre pour protéger leur identité. Le Québec est aujourd'hui la seule province du Canada ayant le français comme seule langue officielle. Le reste du pays est surtout anglophone. Les indépendantistes croient qu'en faisant du Québec un pays, ils pourraient mieux défendre les intérêts et les valeurs propres au Québec. La culture québécoise et la langue française seraient aussi plus valorisées et protégées. Pourquoi ça revient en popularité? David Jovin a 22 ans. Il est animateur du balado souverainiste Génération Oui. Pour David, l'indépendance du Québec, c'est comme quitter la maison de ses parents, le Canada, pour avoir sa propre maison afin de s'épanouir et être libre de prendre ses propres décisions. Il croit que l'idée de l'indépendance plaît aux jeunes comme lui, car elle leur donne espoir d'être libre de faire leur propre choix. Un jeune rappeur qui incarne le mouvement. Sur le web, l'idée d'un Québec indépendant fait des adeptes. Par exemple, le rappeur de Gatineau, Kinji00 est devenue virale sur les réseaux sociaux en rappant sur le souverainisme. « Ma fleur préférée, c'est la fleur de lys », chante-t-il en référence à la fleur de lys que l'on voit sur le drapeau du Québec. Plein de mèmes et de TikTok utilisent ses chansons. Résultat, sa popularité a explosé ces derniers mois. Tout ça alors qu'il a seulement 17 ans. Il vient tout juste de finir le secondaire. Le savais-tu, le Québec aurait pu devenir un pays à deux reprises. Eh oui, tu as bien compris. En 1980 et en 1995, les Québécois sont passés au vote sur la question. Un vote sur un sujet précis, comme dans ce cas-là, et non pour élire un gouvernement. Ça s'appelle un référendum. Les gens devaient voter s'ils voulaient que le Québec soit un pays. Oui ou non. Résultat du référendum 1980, le non remporte 59,56% des voix contre 40,44% pour le oui. Résultat du référendum de 1995, le non remporte 50,58% des voix contre 49,42% pour le oui. C'est pas si proche. René Lévesque a fondé le Parti québécois, PQ, et était le premier ministre du Québec lors du référendum de 1980. Lors de la défaite, il a prononcé ces mots. « Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire « à la prochaine fois ». Pourquoi? Pour donner espoir, malgré la défaite, que le Québec sera un pays un jour, une prochaine fois. Le Parti québécois et Québec solidaire, QS, sont deux partis ouvertement indépendantistes. Les deux partis affirment qu'ils tiendraient un nouveau référendum sur la souveraineté s'ils étaient élus. Mais dans les deux cas, ce ne serait pas la première action qu'ils poseraient. Entre les deux partis, le PQ est le plus populaire. Il est en avance dans les sondages et pourrait former le prochain gouvernement. Mais les élections sont dans un an. Plein de choses peuvent changer d'ici là. Et toi, crois-tu que ce serait une bonne idée que le Québec devienne un pays? Avais-tu déjà entendu parler de cette idée?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Michel, Eva, Mathieu et Samuel.